Donc bah bonsoir et bienvenue donc et avec ces excuses pour les problèmes techniques. Donc troisième séance consacrée à Wagner et la philosophie. Donc on va s'intéresser aujourd'hui à un philosophe qui est donc Théodore Adorno, qui a un certain nombre de points communs avec celui dont il a été question de la semaine dernière, donc Nietzsche. Adorno lui aussi est allemand. Lui aussi est critique et même assez vigoureusement critique à l'égard de Wagner. Et puis lui aussi, il a une double compétence pour traiter de cette œuvre, à la fois de philosophe mais aussi de musicien. J'avais évoqué les velléités musicales de Nietzsche la semaine dernière. Avec Adorno, on est dans une situation un petit peu différente parce que Adorno a davantage composé que Nietzsche. Sa musique est tenue en meilleure estime que celle de Nietzsche. Et puis, il a véritablement tenté de mener de front une carrière de musicien et de philosophe. Hein, et de fait, c'est aussi un musicologue sérieux qui est à même de traiter de la matière même des œuvres musicales, pas simplement de s'intéresser aux musiciens eux-mêmes. Et puis par ailleurs, c'est quelqu'un qui propose une théorie esthétique exigeante et originale, qui reste très influente aujourd'hui en sociologie de la culture, même si elle est elle aussi très critiquée, et on verra pourquoi dans quelques instants. Donc cette fois, une nouvelle fois, je vais discuter de son approche de Richard Wagner, qui est principalement développée dans son livre, dans son essai sur Wagner, hein, donc qui a été traduit en français chez Gallimard, qui a été publié une première fois en 1962, qui a été écrit beaucoup plus tôt, et j'évoquerai dans quelles conditions. Et puis, évoquer les réflexions d'Adorno sur Wagner, c'est aussi une manière, hein, comme pour les autres philosophes, d'introduire plus largement à son œuvre certains aspects de sa pensée, alors à certains aspects seulement de cette pensée, parce que c'est une pensée extrêmement complexe et diversifiée, et qui déborde largement la seule étude du cas Wagner. Par ailleurs, je ne fais que l'annoncer, on retrouvera certains aspects de l'œuvre d'Adorno dans la cinquième et dernière séance, lorsqu'il sera question de Žižek et de Badiou. Alors, je vais commencer par des éléments sur la biographie d'Adorno, puis je présenterai le cadre intellectuel dans lequel il s'inscrit, qui est donc celui de la théorie critique de l'école de Francfort. Et puis, je passerai enfin à l'essai sur Wagner. Alors, Théodore Adorno, il est né en 1911 à Francfort, d'un père juif, commerçant, et d'une mère catholique d'origine corse, qui est cantatrice, et de qui il retire son nom d'Adorno. Donc il abandonnera le nom de son père, Wiesengrund, en ne gardant que le W, hein, Théodore W. Adorno, c'est le nom de son père, Wiesengrund. Donc il vient d'une famille, on va dire, mixte sur le plan de la religion. Il est baptisé, mais il ne s'intéresse pas à la religion, mais le fait de fréquenter des intellectuels juifs et d'avoir un père juif lui causera des problèmes à l'arrivée des nazis au pouvoir. Il suit des études de philosophie, il soutient une thèse de philosophie en 1924 sur la phénoménologie de Husserl, mais donc il hésite entre la musique et la philosophie, et donc en 1925, après avoir soutenu cette thèse de philosophie, il part à Vienne pour suivre des cours de musique auprès d'Alban Berg. Donc je donne ces dates, 1885 et 1935, et il fréquente Arnold Schoenberg, là aussi les dates 1874-1951. Alors Berg et Schoenberg qui sont parmi, avec aussi Webern, les principaux représentants de ce qu'on appelle la seconde école de Vienne. La première école de Vienne en matière de musique, c'est celle de Mozart, hein. Donc cette seconde école de Vienne, qui est un courant musical assez révolutionnaire, puisqu'il s'éloigne à des degrés divers selon les compositeurs de la tonalité autour de laquelle, l'idée de la tonalité autour de laquelle est construite la musique occidentale. C'est-à-dire que la musique occidentale est organisée autour du système tonal qui hiérarchise les notes au sein d'un accord. À l'inverse, dans la musique que promeuvent ces musiciens, hein, Berg, Schoenberg, Webern, dans le type de composition qu'il propose, la dissonance n'est pas considérée comme une faute et on ne hiérarchise pas les notes au sein de l'accord. Donc, on a la possibilité d'utiliser les douze notes de la gamme, d'où l'idée de dodécaphonisme, hein, sans respect de la tonalité. Donc, c'est l'idée aussi de la musique atonale. Hein. Et j'avais déjà évoqué la semaine dernière la manière dont Wagner lui-même a commencé à prendre ses distances par rapport au système tonal. Hein. J'avais passé un extrait de Tristan et Isolde où déjà c'est l'opéra dans lequel commencent à apparaître des formes de dissonance, des écarts par rapport à la tonalité. Donc ça c'est quelque chose, une référence musicale qui intéresse beaucoup Adorno. Il reste très proche de Berg, auquel il consacrera un ouvrage, sur lequel je reviendrai brièvement tout à l'heure si j'ai le temps. Mais finalement, bon, il revient à la philosophie, il revient à Francfort, mais il aura des difficultés à mener sa carrière universitaire en Allemagne parce que, ben, fin des années 20, déjà, les nazis arrivent au pouvoir. Et à la fois du fait de ses origines juives et du côté paternel et du type de philosophie qu'il pratique, c'est absolument incompatible avec le nazisme. Donc il part tout d'abord en Angleterre, à Paris, et en 1938 finalement il s'installe à New York, où il commence à travailler avec un sociologue américain, lui aussi exilé du fait de l'arrivée des nazis au pouvoir, qui est donc d'origine européenne, qui est Paul Lazarsfeld. Et tous les deux, ils vont entreprendre un travail en collaboration sur les auditeurs de radio, qui commence à devenir un média extrêmement, comment dire, un média de masse. Hein. Mais une brouille très rapidement va intervenir entre les deux hommes, parce que Adorno, c'est un théoricien, alors que Lazarsfeld, c'est un empiriste. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui mène des enquêtes sociologique, principalement des enquêtes quantitatives, et cette sociologie très très développée aux États-Unis, hein, dans une phase de développement de la sociologie aux États-Unis, la sociologie telle que l'entend Lazarsfeld, elle s'oppose à la pure spéculation philosophique que privilégie Théodore Adorno. C'est-à-dire que Adorno arrivait avec ses analyses et Lazarsfeld, lui disait « Mais where is the evidence ?» C'est-à-dire « Où sont les preuves ? Où sont les données empiriques qui permettent d'avancer telle assertion ?» Bon, et il n'y en avait pas. C'est-à-dire que Adorno, j'en donnerai des exemples tout à l'heure, développait une spéculation davantage philosophique que sociologique sur la radio. Hein. Et en fait, beaucoup de propositions philosophiques d'Adorno sont apparues comme purement spéculatives et ont été invalidées après confrontation à la réalité empirique. Là aussi, je donnerai des exemples tout à l'heure. Alors, pendant qu'il est toujours aux États-Unis, hein, donc cette période de la Seconde Guerre mondiale, il va rédiger avec un autre philosophe venu de Francfort, qui lui aussi est en exil, qui est Max Horkheimer. Un ouvrage important sur lequel je m'arrêterai tout à l'heure, qui est La dialectique de la raison. À la fin de la guerre, il rentre en Allemagne, il revient à Francfort, où il prend la tête de l'Institut de recherche sociale, que j'évoquerai dans un instant, qui a été fondé avant la guerre, mais qui a été fermé par les nazis. Et donc, qui est le siège, hein, cet Institut de recherche sociale, qui existe toujours, qui est le siège donc, de ce qu'on a appelé en philosophie l'école de Francfort. Alors, Adorno, c'est quelqu'un qui, dans sa réflexion, sa réflexion s'inscrit dans une continuité du marxisme. Je développerai ça dans un instant, mais qui, par ailleurs, et ça aussi, j'en donnerai des exemples, est sur le plan esthétique, mais aussi sur sa manière de concevoir le travail universitaire, qui est très conservateur. Et donc à la fin des années 60, lorsque se développe le mouvement étudiant, on a mai 68 en France, mais on avait aussi un mouvement étudiant extrêmement puissant qui a profondément secoué les universités allemandes au même moment, il réagit très mal. Et donc il y a une très forte contestation d'Adorno qui est menée par les étudiants allemands. Il est accusé de servir le capitalisme bourgeois, d'être en fait un mandarin réactionnaire, alors que lui-même proclame le contraire et veut porter le contraire, une critique de la bourgeoisie dans sa philosophie. Alors il est violemment attaqué. Alors il y a une anecdote célèbre qui, pendant un de ses cours, il y a des étudiantes qui montent sur l'estrade pour perturber son cours et qui exhibent leur sein pour le provoquer, et ce qui n'arrive jamais à l'université populaire, évidemment. Excusez-moi cette. Je devrais avoir montré. Et donc il est profondément affecté en fait, et on en fait une des causes de sa mort en 1969. Bon, le fait d'être contesté sur le terrain sur lequel il voudrait être le plus fournir les instruments d'une contestation. Alors quelques mots sur ce qu'on appelle l'école de Francfort et la place qui occupe Adorno. Donc j'ai dit l'école de Francfort, c'est principalement l'institut de recherche sociale qui a été fondé en 1923. Avec la vocation d'entreprendre des recherches multidisciplinaires en philosophie, mais également en sociologie, en économie et en psychologie. Mais la dominante restera très, très longtemps et toujours une dominante philosophique. Cet institut s'inscrit, la création de l'institut en tout cas, s'inscrit dans une filiation revendiquée avec le marxisme, et donc avec une vocation de poursuivre la critique du capitalisme qui a été initiée par le marxisme. Alors l'école de Francfort, elle est aussi connue par l'appellation de théorie critique. Alors évidemment, elle n'a pas le monopole de la critique sociale, mais c'est quelque chose de central pour elle. Il n'y a pas seulement une volonté de réaliser des comptes rendus objectifs de la réalité sociale, mais il y a aussi une attitude particulière vis-à-vis de cette réalité sociale. Et une attitude que Max Horkheimer, donc je donne ses dates aussi, je ne les ai pas données, 1895, et il est mort en 1973, qui va diriger l'Institut de recherche sociale avant la guerre. Donc une attitude qu'il définit comme de méfiance à l'égard des normes de conduite que la vie sociale, telle qu'elle est organisée, fournit à l'individu. Donc une définition très, très large de la vocation critique. Alors, il s'agit de poursuivre la critique du capitalisme initiée par le marxisme, mais en prenant aussi en compte que ce marxisme est confronté à des difficultés. C'est-à-dire qu'on est forcé de constater au moment où l'Institut est fondé, on peut poursuivre ce constat, qu'au lieu de se révolter pour instaurer une société communiste, le prolétariat semble s'intégrer à l'ordre capitaliste. Et contrairement aux thèses les plus scientistes du marxisme, le développement de la raison, le progrès scientifique ou intellectuel, n'apporte pas nécessairement l'émancipation, mais fait apparaître de nouvelles formes d'émancipation. Donc il s'agit aussi de se confronter à ce paradoxe. Par rapport au marxisme, qui à la fois est optimiste dans le progrès de la raison, qui doit amener à l'émancipation, qui est confiant dans la vocation du prolétariat à mener la révolution, et en fait, de révolution, il n'y en a pas, et le progrès de la raison, certes, la raison progresse, la technique avance, mais ça n'est pas spécialement une source d'émancipation. Alors, dans la vocation également interdisciplinaire, il faut aussi noter le dialogue de l'école de Francfort avec une autre discipline qui est en rapide développement au début du XXe siècle et qui a aussi une dimension potentiellement révolutionnaire, qui est la psychanalyse. Je vais citer deux membres de l'école de Francfort qui ont beaucoup dialogué avec la psychanalyse, qui sont Erich Fromm et Herbert Marcuse. Donc Fromm est né en 1900, il est mort en 1980, Marcuse est né en 1898, il est mort en 1979, qui vont essayer tous les deux, de manière différente, de transposer les thèses de Freud dans une analyse de la société. Par exemple, Marcuse dans un livre qui s'appelle Eros et civilisation, qui date de 1955. Et l'école de Francfort, plus généralement, va s'intéresser au façonnement social des personnalités. Et Adorno, par exemple, va mener des travaux sur la personnalité autoritaire. Et on retrouve là des inquiétudes que j'ai déjà mentionnées. C'est pourquoi le prolétariat ne se révolte pas contre son exploitation. Bah, peut-être que c'est à rechercher dans des mécanismes psychologiques d'acquiescement, d'acceptation de l'autorité. Alors, c'était un thème, l'autoritarisme, qui était évidemment d'actualité dans les années 30 en Allemagne. De même que la question des préjugés et de l'antisémitisme, qui ont aussi été étudiés par l'école de Francfort. Et l'histoire de l'Institut de recherche sociale est marquée par la Seconde Guerre mondiale, compte tenu de sa dimension marxiste, de la judéité de bon nombre de ses membres. Et donc l'Institut a été forcé de fermer en Allemagne, de s'exiler en Suisse et aux États-Unis pendant la guerre, et certains de ses membres, et notamment Walter Benjamin, sont morts pendant la guerre, ou ont été, donc comme le cas d'Adorno et d'Horkheimer, ont été obligés de s'exiler. Alors, c'est en 1950 que l'Institut a pu rouvrir ses portes, à Francfort, et il existe toujours aujourd'hui, et des gens comme Jürgen Habermas, ou aujourd'hui Axel Honneth, sont les représentants, les chefs de file de la continuation de l'école de Francfort. Une des œuvres majeures de la théorie critique, c'est La dialectique de la raison, j'ai déjà signalé, qui est un ouvrage rédigé en 1944 par Adorno et Max Horkheimer. Donc c'est un contexte le contexte de la rédaction de l'ouvrage, évidemment, est essentiel. On est en pleine Seconde Guerre mondiale. C'est rédigé par deux Allemands qui ont dû fuir leur pays dans les années 30 sous la menace nazie. Et cette menace, elle s'est concrétisée et elle a donné lieu à une nouvelle forme de barbarie. Et il s'agit de comprendre comment ça a été possible alors que les sociétés occidentales étaient supposées être davantage éclairées du fait que ce qu'on appelle les Lumières s'était imposé depuis la fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire on a eu un progrès de la raison depuis le XVIIIe siècle, depuis la philosophie des Lumières, et pourtant ça n'a pas empêché la barbarie nazie de triompher. Donc c'est la question qu'il se pose. Alors, le terme allemand pour désigner les Lumières, c'est Aufklärung, et c'est un texte qui est utilisé dans un texte célèbre de Kant, Qu'est-ce que les Lumières, précisément, qui date de 1784. Et Kant, donc, c'est le point de départ un peu de la réflexion de Adorno et Horkheimer. Donc à cette question, qu'est-ce que les Lumières, Kant avait répondu que, je cite, les Lumières, c'est la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. Alors on a une lecture assez célèbre de Michel Foucault de ce texte de Kant. La lecture qu'en donne Foucault, c'est que les Lumières, c'est ce qui permet à l'humanité de sortir de l'état de minorité. C'est ce qui permet, autrement dit, l'émancipation. Donc c'est une émancipation par la raison dont l'usage permet de gagner une nouvelle forme de liberté contre des pouvoirs qui enjoignent, à l'inverse, d'obéir sans penser. On peut penser à des pouvoirs politiques ou à des pouvoirs religieux. L'état de tutelle, dit Kant, est l'incapacité de se servir de son entendement sans la conduite d'un autre. Et se servir de sa raison sans la conduite d'un autre, c'est d'autant plus difficile qu'on n'a pas été formé pour se servir de sa raison. On n'a pas été habitué à se servir de sa raison, et aussi parce que c'est plus commode de laisser les autres penser à sa place et d'obéir à d'autres. Alors avec les Lumières, à l'inverse, il s'agit pour les individus de mobiliser, de développer leur raison pour être responsables de leurs actes, pour devenir autonomes, mais au sens étymologique, de se doter de sa propre loi, d'être à même de se conduire soi-même sans avoir besoin de demander conseil à une autorité supérieure, à une tutelle. Et donc c'est de sortir de l'état de minorité, c'est devenir majeur. Et cette émancipation, elle se joue notamment à l'égard de la religion, déjà dans le texte de Kant, mais également chez Adorno et Horkheimer, où la religion, elle prend la forme de ce qu'ils appellent le mythe, la magie. Et ils disent que la magie donne une fausse clarté qui risque toujours de fasciner, de faire régresser. Bon. Donc il y a toujours le risque de retomber dans la mythologie. Mais ce qui les inquiète le plus, en fait, c'est pas l'opposition de la raison au mythe. Ce qui les inquiète, c'est que la raison doit lutter contre le mythe, c'est la propension de la raison elle-même à se muer, à devenir par elle-même mythologie. Le risque, c'est que c'est pas l'opposition de deux choses, comme lorsque les philosophes des Lumières au XVIIIe siècle s'opposaient à la religion, c'est que la raison elle-même, opposer la raison à la religion, c'est que la raison elle-même redevienne une mythologie. Et c'est ce qui risque de se passer si la raison cesse d'être critique, si elle perd de sa vigilance. Je cite les deux philosophes, « Si la raison sort de son élément critique pour devenir un instrument au service d'un ordre existant, elle tend malgré elle à transformer l'élément positif qu'elle a choisi en quelque chose de négatif, de destructeur. » Or, précisément, l'époque à laquelle ils écrivent est marquée par cette autodestruction de la raison. Et le progrès, spécialement technique, en est un des facteurs de cette régression de la raison, ou de ce retournement de la raison. Et évidemment, on pense à l'extermination des Juifs, à la Shoah, qui a été permise, qui a été rendue possible par la raison. C'est-à-dire qu'on a une forme de rationalisation du massacre. Et c'est ça la monstruosité du nazisme. C'est le progrès technique qui est mis au service d'une barbarie méthodique. Donc, les deux philosophes constatent un paradoxe. L'accroissement de la productivité économique crée les conditions d'un monde meilleur, mais dans le même temps, elle offre les moyens aux groupes sociaux qui maîtrisent ce progrès de s'assurer une domination implacable sur le reste de la population. Le problème, c'est plus celui du manque matériel, de la famine, etc. On a, avec la rationalisation, on va dire, de la production agricole, les moyens de nourrir tout le monde. Mais le problème, il est inverse, c'est celui de la profusion d'objets matériels qui sont aliénants et inauthentiques. Et l'aliénation, c'est bien le contraire de la raison. Notamment, il voit ça dans l'asservissement de la nature aux exigences de la raison, qui produit un effet réducteur, notamment via la mathématisation générale du monde, qu'on peut quantifier dans son ensemble pour le rendre prévisible et maîtrisable pour un usage technique. Par exemple, Adorno se méfie beaucoup des mathématiques parce que c'est l'asservissement du monde à une vision technique. Et dans ce processus, la raison elle-même est asservie puisqu'elle n'est qu'un instrument et elle devient de ce fait manipulable. Parce que le problème, c'est que la raison, elle est l'organe du calcul, de la planification, elle est neutre à l'égard des buts. Et donc, on peut orienter la raison vers le progrès, mais on peut aussi l'orienter vers l'aliénation. Et donc, on aboutit au processus de la réification, une forme d'aliénation où le monde, la nature, mais aussi les hommes, est perçu comme une matière instrumentalisable avec les outils de la raison. Alors, ce processus, il l'évoque dans une série de secteurs, mais spécialement dans le domaine esthétique et dans le domaine de la culture. Parce que l'art est conçu par l'école de Francfort comme ce qui permet d'échapper à la domination, comme une forme de protestation de l'humain contre les institutions qui représentent la domination autoritaire. Donc l'art est un potentiel d'émancipation et de protestation contre le monde tel qu'il existe. Mais le souci, c'est que la culture, l'art, ont été asservis à la raison. Et du coup, l'uniformité, la médiocrité régneraient dans la culture avec, pour effet, une crétinisation généralisée des masses. C'est la thèse qui est développée dans Dialectique de la raison. Et Horkheimer et Adorno propose le terme d'industrie culturelle pour décrire cet état de massification où il n'est plus question d'art, mais de technologie de reproduction à grande échelle. qui est destiné à répondre aux attentes similaires, identiques, de millions de personnes. Il ne s'agit plus de création, mais de management et de planification, avec également une vocation de domination. Et la rationalité technique, elle est importante dans ce processus également, parce qu'elle sert la domination. Alors, le problème dans cette logique de standardisation et de reproduction en série, qui est offert par les moyens techniques, hein, on peut reproduire à l'infini des œuvres culturelles, ou qui se disent culturelles, ben, c'est que dans ce processus, l'originalité de la vraie œuvre d'art disparaît. Parce que la vraie œuvre d'art, c'est l'expression de la singularité d'un artiste. Et à l'inverse, on n'a plus de singularité d'expression personnelle, mais on a une uniformisation des styles et des produits. Le style, c'est la personnalité de l'artiste. Mais dans l'industrie culturelle, il y a négation du style, vu qu'il y a uniformité totale. Et de même, le nouveau, l'innovation artistique, c'est exclu, parce que ce qui n'a pas encore été expérimenté s'est écarté comme un risque inutile par l'industrie culturelle, et ce ne sont que des copies conformes qui sont produites. Alors, il n'y a pas de consensus là-dessus au sein de l'école de Francfort, parce que quelqu'un comme Walter Benjamin, qui est aussi membre de l'école de Francfort, va davantage valoriser l'œuvre d'art à l'ère de sa reproduction technique. Il y a un texte célèbre de Benjamin là-dessus, où la reproduction technique de l'œuvre d'art, ça permet une plus grande accessibilité à l'œuvre d'art. Hein. Et également, ça a pour effet de désacraliser cette œuvre d'art. Donc, aussi d'éviter les effets d'intimidation de l'œuvre d'art devant un public qui se sent illégitime pour l'apprécier. Et il prend l'exemple du cinéma, c'est-à-dire que un film, vous pouvez le projeter, sauf quand, comme aujourd'hui, on est victime de la technique, vous pouvez le projeter plusieurs fois. L'unicité de l'œuvre d'art disparaît. Vous pouvez la reproduire, cette œuvre d'art. Ce n'est pas un événement unique, la projection d'un film, par exemple. Bon, ils ont un grand débat avec Adorno qui n'est pas du tout d'accord avec cette manière de voir. Alors, j'en reviens à Adorno et Horkheimer. Cette idée de standardisation, elle se retrouve dans la dénonciation, par exemple, de la radio, qui soumet l'ensemble des auditeurs au même programme, au point que, je cite, « toute trace de spontanéité chez le public est contrôlée ». Les émissions de radio se ressemblent toutes, comme toutes les voitures, quelles que soient les marques, se ressemblent. Donc il y a une réduction de l'univers des possibles artistiques au profit de formes standardisées, une uniformisation. Et l'effet produit, c'est celui de l'abrutissement. Les produits de l'industrie culturelle, spécialement les films qui correspondraient tous au même schéma, je cite, interdisent toute activité mentale au spectateur s'il ne veut rien perdre d'effet défilant à toute allure sous ses yeux. Il n'y a plus de place pour l'imagination. Et ils ajoutent, la violence de la société industrielle s'est installée dans l'esprit des hommes parce que le consommateur distrait absorbera alertement tout ce qui lui est proposé. Donc on est dans une vision fonctionnaliste où l'industrie culturelle, finalement, ça ne vise qu'à servir les intérêts du capitalisme. Tous les secteurs de la culture dans cette industrie sont subordonnés, je cite, à cette fin unique, marquer l'essence des hommes de leur sortie de l'usine le soir jusqu'à leur arrivée à l'horloge de pointage le lendemain matin, du saut du travail à la chaîne qu'ils doivent assurer eux-mêmes durant la journée. Et ça fonctionne parce qu'il y a une homologie entre le travail à la chaîne et la production à la chaîne des produits culturels. La même répétition à l'identique du geste ou de la copie, et ça se fait sans exiger d'efforts intellectuels. Donc une dénonciation très virulente de la massification de la culture, que vous allez peut-être approuver, je ne sais pas, en pensant aux films ou aux télé-émissions débiles que TF1 diffuse et qui viseraient à abrutir les masses téléspectatrices. Alors, un discours de ce type, il est très fréquent, il était notamment très diffusé dans les années 70 avec la dénonciation de la société de consommation, de l'aliénation des médias de masse, hein, qui est par les médias de masse, qui ne viserait qu'à abrutir ceux qui les consomment, l'idée, la métaphore du matraquage notamment. Bon. Alors, j'ai une première mise en garde devant cette peut-être adhésion spontanée au discours dénonciateur d'Adorno et Horkheimer. C'est que ne vous croyez pas sain et sauf si vous ne regardez pas TF1 et si vous n'allez voir que des films d'art et d'essai en dédaignant les blockbusters américains, hollywoodiens. Parce qu'un des exemples que Adorno et Horkheimer prennent de la standardisation du cinéma, c'est par exemple Orson Welles, dont les écarts au code cinématographique, selon eux, ne remettent rien de fondamental en cause. Alors, de même, autre exemple de l'aliénation complète produite par l'industrie culturelle, le jazz. Adorno détestait le jazz et stigmatisait ça comme une musique profondément réactionnaire qui relèverait de l'improvisation standardisée et qui habituerait l'oreille à une démission instinctiviste. Hein, je cite. Donc, y compris dans le jazz, c'est-à-dire la musique où on valorise l'improvisation et donc la singularité de la création musicale, eh ben, ce n'est que de l'automatisme sans conscience. Et donc, pour eux, ce n'est pas le mauvais cinéma qui aliène, c'est le cinéma, tout court. Et donc, nous sommes, à leurs yeux, ils sont plus là pour nous regarder sévèrement, mais on serait totalement aliénés, et pas simplement en regardant TF1, en regardant Arte aussi. Et, bon. Alors, ce qui est une des limites de cette pensée, hein, c'est son élitisme, évidemment, c'est la conviction que les cons, les aliénés, c'est toujours les autres, et que sa culture à soi est la meilleure. Le souci, c'est que quand on est aussi élitiste en matière d'art que Adorno, on est très vite un con aliéné et abruti. Et ça aussi, c'est une des limites de cette pensée, comme de toutes celles qui, hier comme aujourd'hui, dénoncent l'abrutissement des masses, c'est que les enquêtes empiriques, si on cesse de spéculer pour voir ce qui se passe dans la vraie vie sociale, bah, ces enquêtes empiriques montrent que les spectateurs, même ceux de TF1, ne sont pas passifs devant leur télé ou leur radio ou au ciné. Ils sont actifs, ils n'avalent pas passivement une parole d'autorité, ils ont leur quant à soi critique et ils accueillent les messages médiatiques avec une attention oblique, voilà, qui fait qu'ils ne sont pas totalement abrutis. Mais j'ai déjà signalé, Adorno, il avait un sérieux problème avec la recherche empirique et... Alors, je l'ai dit, ce qui fait aux yeux d'Adorno la vraie œuvre d'art, c'est la singularité d'une individualité qui va s'y exprimer et qu'il va opposer donc à la massification, à la mise en série uniforme de l'industrie culturelle. Et on en trouve une illustration, on va dire, un peu plus positive dans sa démarche du portrait social du compositeur qu'il a appliqué à différents musiciens, notamment, je l'ai évoqué, Berg, Alban Berg, mais aussi Gustav Mahler et donc Richard Wagner, hein, auquel je vais finir par arriver. Alors, du point de vue sociologique, hein, donc on a une série de travaux, de portraits sociologiques, on va dire, de musiciens, hein, il y a aussi Beethoven. Alors, du point de vue sociologique, c'est une approche originale qui est assez courageuse intellectuellement et qui vise à rechercher le social dans le contenu de l'œuvre même. Parce que la difficulté, enfin une des difficultés de la sociologie de la culture, c'est que souvent elle s'arrête là où commence l'œuvre. Hein, c'est-à-dire, elle peut reconstituer les conditions sociales de production d'une œuvre, par exemple en étudiant la trajectoire sociale de l'artiste et sa position dans le champ artistique, c'est la démarche que préconise Bourdieu, par exemple. Mais comment ça détermine le contenu, la matière même de l'œuvre, c'est beaucoup plus difficile. Hein. Récemment, Bernard Lahire a essayé de le faire dans le cas de Kafka, mais c'est sans doute plus facile à faire dans le cas d'une œuvre littéraire que dans le cas d'une œuvre musicale. Alors, je vais donner quelques éléments sur la démarche d'Adorno. Hein. Alors, c'est, je l'ai dit, un héritier du marxisme, donc il va rapporter l'œuvre et l'artiste à leurs conditions économiques de production. C'est-à-dire que pour lui, les lois d'évolution de la composition musicale sont la transposition, dans l'ordre esthétique, de la dynamique des tensions sociales dans l'histoire du capitalisme. Deuxième élément de la méthode, c'est que l'œuvre, elle est évaluée, mais c'est au sens véritablement normatif, hein, hiérarchisée, c'est une bonne ou une mauvaise œuvre, selon qu'elle est progressiste ou conservatrice ou réactionnaire. Évidemment, dans le deuxième cas, elle est désapprouvée. Hein. Adorno nous dit « L'idée d'une œuvre d'art conservatrice contient quelque chose d'absurde. » Alors, l'œuvre progressiste, ben, c'est celle qui se sépare du monde en témoignant que ce monde doit devenir autre chose. Donc on retrouve l'idée marxiste révolutionnaire, c'est que le monde actuel est insatisfaisant et que quelque chose qui s'oppose à ce monde, qui s'en échappe, est quelque chose de progressiste. Et c'est ce caractère progressiste qui fait l'authenticité de l'œuvre pour Adorno, ce qu'il appelle sa teneur en vérité. Et seuls les artistes avant-gardistes, ceux qui innovent, voire qui révolutionnent la musique, en s'opposant au goût dominant et à l'art consacré, sont dignes d'intérêt. Donc l'analyse, chez lui, c'est une hiérarchisation. Et donc sa double compétence de philosophe et de musicologue va habiliter Adorno à proposer ce qu'il appelle une physiologie musicale, qui dresse un portrait psychologique et social du compositeur pour mieux en trouver les traits dans son style propre, ce qui passe par l'analyse technique des œuvres, hein, de leur langage et de leur structure formelle. Alors, par exemple, c'est ce qu'il fait dans son livre sur Gustav Mahler, où il met en rapport l'origine modeste de Mahler, c'est le petit-fils d'une marchande ambulante. Il met aussi en rapport sa situation sociale, le fait que c'est un juif allemand qui est obligé de se convertir au catholicisme pour pouvoir devenir chef d'orchestre à Vienne. Ben, sa démarche musicale, c'est-à-dire le fait d'introduire de la musique populaire dans de la grande musique. Hein, parce que pour Mahler, il s'agit de régénérer la grande musique en lui injectant des éléments qu'elle a écartés ou qu'elle a oubliés. Hein, par exemple, la musique populaire ou des genres mineurs comme le folklore, la chanson, etc. Hein. Et donc, ça témoignerait, selon la lecture que donne Adorno de la musique de Mahler, d'une révolte contre la musique bourgeoise. Donc, il y aurait chez Mahler une distance critique à l'égard de la hiérarchie sociale et culturelle, mais sans pour autant renoncer à créer un art exigeant et savant. Hein. Et donc, voilà, Mahler, c'est un musicien progressiste, pour lequel Adorno a une grande admiration parce que sa musique est progressiste. Alors, l'inverse, c'est Strauss, qui est un grand bourgeois, selon Adorno. Hein. Strauss, Richard, voilà. Et qui, lui, est un grand bourgeois qui est dans la répétition et pas dans l'innovation, et qui, suprême insulte, je cite Adorno, a fini à l'unisson des mauvaises musiques de film. Ça, c'est l'insulte la pire qui peut peut-être adresser à un musicien. Alors, cette technique, cette démarche plutôt intellectuelle, il l'a appliquée donc à Richard Wagner. J'en viens enfin à Wagner, alors qu'il commence déjà à se faire sérieusement tard. Alors, donc, il en parle dans l'essai sur Wagner, qu'il a rédigé quand il était exilé en Angleterre entre 1937 et 1938, mais qui a été publié dans la revue de l'Institut, mais qui, du fait de la guerre, il a eu un écho très limité, et c'est seulement dans les années 60 qu'il a été publié en livre. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que Adorno ne goûte guère la personnalité et la musique de Wagner. Donc il lui adresse des reproches qui sont souvent bien vus, mais aussi souvent injustes, du fait de la démarche intellectuelle qui est la sienne. Alors le livre s'ouvre sur un portrait donc social de Wagner, et Adorno stigmatise immédiatement quelque chose qui va être central dans sa lecture, qui est son caractère bourgeois, et dont témoigne notamment l'attrait pour le luxe que ressentait Wagner, et dont témoignent toutes les bassesses auxquelles il était prêt pour s'assurer des revenus suffisants pour échapper à ses créanciers. Et Adorno cite une lettre à Liszt où, juste après avoir fui Dresde en 1949, après cet épisode révolutionnaire que j'avais évoqué, il demande à Liszt d'essayer de lui trouver un travail dans la haute aristocratie. Donc à la fois il est révolutionnaire et puis dans le même temps, il est prêt à se vendre pour s'assurer un confort bourgeois. Un autre trait de la personnalité de l'œuvre, de l'œuvre et de la personnalité de Wagner, c'est l'éloge de soi-même et la pompe, qui annonce aussi le fascisme selon Adorno. De même que dans Rienzi, Wagner se ferait le prophète de l'idéologie totalitaire. Et il pointe également combien l'initiative de Bayreuth, dans laquelle Wagner voyait une entreprise de régénération du peuple allemand, était en proximité avec l'idéal fasciste de la communauté d'un peuple unifié. Mais il signale aussi combien cet idéal était vain, puisque dès le début, c'est une forme de jet-set de la grande bourgeoisie, ajouter une petite bourgeoisie vulgaire, je cite Adorno, de mangeurs de saucisses et de buveurs de bière. C'est ce qui avait fait fuir déjà Nietzsche, je l'avais déjà évoqué la semaine dernière, qui a peuplé Bayreuth et qui en a constitué le principal public. Et puis également, dans ce lien que tisse Adorno entre Wagner et le fascisme, c'est le contexte de l'écriture du texte qui pèse aussi là-dessus, il stigmatise l'humour de Wagner qui se caractérisait par la cruauté et qui prenait fréquemment les formes de l'antisémitisme. Il en trouve des traces dans ses relations avec ses proches et spécialement dans ses relations avec Hermann Lévy, qui était le chef d'orchestre juif qui a créé Parsifal à Bayreuth. Et tous les Wagneriens attaquaient violemment ce chef d'orchestre sur sa judéité. Et j'arrête pas de me faire insulter, je suis en porte-à-faux par rapport à vous. C'est vos soutiens, c'est les Wagneriens qui m'attaquent sur mes origines. Et Wagner disait non, il y a que vous que je veux. Et dans le même temps, les formes de les manières dont Wagner insister sur « je veux, c'est vous que je veux », on revenait à chaque fois à la judaïté d'Hermann Lévy. Donc il y avait un jeu cruel, nous dit Adorno, dans la manière dont Wagner traitait avec son chef d'orchestre. Alors cette cruauté, plus globalement, on la retrouve dans l'œuvre où les personnages bouffons ou ridicules des opéras sont traités toujours rudement, avec cruauté, de la même manière que Wagner traitait ses inférieurs, ou ceux qu'il considérait comme tels, plus exactement. Et c'est spécialement net dans la manière dont les Nibelungen, les nains du ring, de la tétralogie, spécialement Mime et Alberich, ces personnages sont perpétuellement soumis à des rebuffades, à des moqueries ou à des brutalités, qui sont justifiés uniquement par le mépris qu'ils inspirent à des personnages qui les dominent. Alors, je cite plusieurs exemples. Les filles du Rhin qui se moquent cruellement de la laideur d'Alberich au début de la tétralogie. On se moque des personnages par la séduction. C'est aussi par la force. Il y a une scène dans Siegfried où Wotan mène un jeu très cruel de devinette avec Mime. Ou dans le même opéra, Siegfried qui repousse Mime, qui le brutalise, en justifiant sa brutalité par le seul dégoût qu'il lui inspire. Il ne se justifie pas, il dit « t'es tout simplement abject à mes yeux » et donc ça m'autorise à te traiter par la brutalité et par la cruauté. C'est également le cas de Beckmesser, qui est l'amoureux ridicule dans les maîtres chanteurs. Donc il y a un plaisir à exercer... à créer de la souffrance chez un personnage qui est en position inférieure. Et donc c'est le dominant qui jouit de la souffrance de l'inférieur. Et cette cruauté, remarque Adorno, elle cible principalement des personnages qui sont des représentations des Juifs, comme Beckmesser ou les Nibelungen, qui sont décrits dans le ring comme des êtres repoussants, laids, qui agissent dans l'ombre, qui sont fourbes, qui sont attirés par le gain, qui sont avides, et ces traits sont ceux qui sont distillés par l'antisémitisme de la seconde moitié du XIXe siècle. Également, Adorno fait remarquer que dans le ring, c'est toujours une différence de race qui sépare les différentes catégories de personnages, et notamment les Nibelungen, donc des nains inférieurs, et les créatures supérieures qui sont les héros ou les dieux. Et donc, on aurait une expression de l'antisémitisme de Wagner dans son œuvre, dans la manière de traiter, de présenter certains personnages qui sont des incarnations de, ou des images de la judéité. Ce qui caractérise donc, j'en reviens au point de départ, la personnalité de Wagner, ce qui la caractérise, et également son œuvre, selon Adorno, c'est son caractère bourgeois. Hein, j'y reviens. Alors, ça se repère aussi au fait que Wagner a d'abord été chef d'orchestre, et qu'il s'agit au XIXe siècle d'une nouvelle fonction, tout au moins d'une fonction qui gagne en importance à cette époque, du fait, que j'avais déjà évoqué, que c'est l'époque où le public bourgeois des concerts se développe. Hein, c'est pas simplement une musique de cour que l'on joue, mais c'est une musique bourgeoise pour un public bourgeois qui paye des concerts pour assister aux concerts dans des salles publiques. Et la musique de Wagner témoignerait de cette focalisation, sur le rôle conducteur du chef d'orchestre, qui est là avant tout pour battre la mesure. Hein. Et sa musique, celle de Wagner, je cite Adorno, est plutôt conçue selon l'art du geste battant la mesure, et l'image de la mesure battue la domine. Alors, il ne s'agit pas seulement pour Adorno de stigmatiser ce qu'il perçoit comme une forme de médiocrité de la musique de Wagner. Hein, il raille la certaine maladresse des premiers opéras de Wagner, mais il s'agit surtout de pointer l'accord entre cette musique et les attentes de son public. Cette musique, alors le terme n'est pas utilisé par Adorno, mais elle serait commerciale, on dirait aujourd'hui. Hein. Elle serait en fait conformiste du fait de son accord résolu avec le public. Je cite Adorno, « Au nom de l'auditeur, on fait taire ce dont la sensibilité suit d'autres normes que le temps et la mesure. » Donc, on retrouve cette idée entre musique progressiste ou conservatrice. Wagner serait un faux innovateur, un imposteur dont les audaces musicales préserveraient toujours ce qui est essentiel pour s'assurer l'intérêt du public. Un autre trait de la musique de Wagner qui est critiquable aux yeux d'Adorno, c'est que, au fil du temps, cette musique relève de plus en plus de l'organisation rationnelle, de la planification, afin de s'accorder aux attentes du public. Et cette planification et cette organisation rationnelle, elle passe principalement par quelque chose que j'ai évoqué la semaine dernière, qui est le recours au leitmotiv. Parce que ça procéderait, selon Adorno, d'une forme de rationalisation de l'écriture musicale. Hein, j'ai évoqué la semaine dernière, à chaque personnage ou à chaque thème dans l'opéra est associé un motif musical. Et donc la composition suit cette rationalité, c'est-à-dire vous avez Wotan qui apparaît sur scène, vous avez le thème de Wotan qui est joué par l'orchestre. Donc le leitmotiv serait une illustration, donc on est dans la rationalisation, hein, et vous voyez par rapport à ce que j'ai dit sur la dialectique de la raison que c'est critiquable. Hein, on est dans une technicisation de l'écriture musicale. Mais également, ce recours rationalisé au leitmotiv serait une illustration de cette tendance commerciale de Wagner, parce qu'elle se rapprocherait de la fonction de la publicité. Hein, le mot est employé au sens moderne du terme. Je cite Adorno, « La musique est destinée, comme plus tard dans la culture de masse en général, à être retenue de mémoire, conçue au premier chef pour les oublieux. » C'est-à-dire que c'est une musique qui est médiocre, parce qu'elle exigerait moins d'attention de la part de l'auditeur, parce que sous les apparences de la complexité musicale, elle sera en fait facile, ou plus exactement, elle userait d'effets faciles qui lui permettent de s'imprimer aisément dans la conscience et la mémoire de l'auditeur. Alors, la répétition du motif, c'est quelque chose que Wagner a notamment emprunté à Berlioz, notamment dans la symphonie fantastique. Mais, nous dit Adorno, chez Berlioz, la répétition du motif, c'est là pour souligner l'idée fixe, l'obsession, hein, dans la symphonie fantastique. Donc il y a une logique. Mais chez Wagner, c'est le procédé. C'est un procédé d'écriture, et d'écriture facile pour que, ah oui, tiens, j'entends la musique de Wotan, je pense à Wotan. Voilà, et je la retiens. Il y a plein de mélodies comme ça qui se gravent dans ma mémoire. Au fil de leur écoute, elles sont récurrentes dans l'opéra. Et comme l'opéra dure 16 heures au total, on a le temps de la retenir. Donc ça ferait obstacle à une véritable complexité musicale, de la même manière, nous dit Adorno, que le slogan remplace l'élaboration de la pensée. Donc on serait dans l'ordre de la fausse innovation. Hein. J'ai cité aussi ce que Adorno sur Strauss, mais aussi sur Stravinsky, parce que il n'est pas dans la nuance, il dit... Stravinsky donnerait dans la régression sous toutes ses formes, comme les fascistes, il bannit la notion de progrès de son idéologie esthétique. Et Wagner, sous cet angle-là, il est du côté du faux progressisme, et une part importante des considérations musicologiques du livre pointe ce qui apparaît, que ce qui apparaît comme des innovations, en fait, ça relève de la maladresse ou de la recherche de l'effet. Mais le fond du travail de Wagner reste conservateur, ça ne remet pas fondamentalement en cause les codes et les normes musicaux de l'académisme de son temps. Autre expression, hein, je l'ai dit, c'est le fil conducteur de l'œuvre, hein, Wagner comme musicien bourgeois, l'œuvre témoignerait d'une tension dans la personnalité de Wagner entre l'hédonisme et l'ascétisme. C'est-à-dire que c'est quelque chose que Wagner avait lui-même fait remarquer, que son évolution artistique, elle tend à la conciliation de deux tendances, de deux choses qui sont en tension. C'est d'une part la sexualité libérée. J'avais dit que dans sa jeunesse, il avait fréquenté les bordels, et ses biographes le décrivent quand même en vieux libidineux sur le tard. Donc il y a cette facette de la personnalité de Wagner. Et il y a un idéal ascétique qu'on retrouve certains opéras. Et Adorno nous dit que c'est typique de la mentalité bourgeoise d'essayer de combiner les deux, en fait, et dans la mentalité bourgeoise, il y a une tension entre les deux. Et on peut remarquer que c'est assez bien vu parce que c'est le thème même de Tannhäuser. D'ailleurs, Tannhäuser, c'est celui qui est avec Vénus au début de l'opéra, et puis qui, quand même, à la fin, fait pénitence et qui est plutôt à la fin du côté de la chasteté promue par Élisabeth. Ça se retrouve aussi dans les thèmes de ces opéras qui évoquent le plaisir dans la souffrance, ou qui rapprochent le désir et la mort. Adorno nous dit « Éprouver le plaisir comme une maladie, cette expérience imprègne toute l'œuvre de Wagner ». On peut aussi, ça fait aussi écho à ce que disait Nietzsche, hein, j'avais évoqué la semaine dernière sur le dernier Nietzsche dans ses critiques sur Wagner et la maladie. Tristan et Isolde, le chant final d'Isolde, c'est à la fois un chant d'amour et un chant de mort. Et également, dans Siegfried, Brunehilde, lorsqu'elle est réveillée par Siegfried et qu'elle sait qu'elle va perdre ses pouvoirs magiques en même temps que sa virginité, il y a l'idée de la souffrance et du plaisir. Et Adorno fait référence à la psychanalyse pour identifier chez Wagner un trait du conservatisme bourgeois qui assimile le sexe et maladie. Le conservatisme bourgeois, il se repérerait également dans le fait que Wagner, dans les domaines qui ne relèvent pas de la musique, se serait toujours montré très hostile à toute innovation. Et il fait remarquer que le temps historique, celui d'un monde qui change ou qui doit être changé, hein, ce monde qu'il nous faut changer, ce temps historique, il est absent des œuvres de Wagner. Et il prend pour exemple le Ring, puisque la situation à la fin, c'est la même que celle du début. Hein. Les filles du Rhin qui perdent l'or au début, elles le retrouvent à la fin, et rien n'a changé. Hein. C'est aussi quelque chose, j'avais dit la semaine dernière, que Nietzsche avait remarqué. Hein, en disant, Wagner a renoncé à une fin optimiste, et qui donnerait une vocation révolutionnaire à Siegfried pour... une fin pessimiste où finalement on retrouve le monde ne change pas. Hein. Alors ce refus de l'histoire, c'est aussi, selon Adorno, du fait que Wagner appartient à une bourgeoisie qui est condamnée à disparaître en tant que classe. Et il nous dit, Wagner est le représentant d'une classe qui, déjà menacée historiquement par le mouvement historique, ne prend pas conscience d'être condamnée par l'histoire, mais projette comme catastrophe métaphysique sur les principes de l'être la fin prévisible de sa propre dynamique. C'est-à-dire que Wagner serait le représentant d'une bourgeoisie qui sera nécessairement anéantie par la révolution communiste, et son œuvre en serait l'expression. Alors, c'est assez un raisonnement assez curieux, hein, assez radical mais aussi curieux, et qui se fonde sur rien de convaincant. C'est qu'une nouvelle fois, Adorno ne s'embarrasse guère d'empirie, il se contente d'une lecture de l'œuvre à sa convenance, et effectivement, le Ring, par exemple, annonce l'anéantissement du monde des dieux, mais c'est un petit peu hasardeux d'y voir, comme le fait Adorno, la préscience d'une fin inéluctable de la bourgeoisie, même si on peut toujours l'espérer. Mais on attend toujours cette révolution qui mettra fin au règne capitaliste. Mais d'une certaine manière, Adorno nous dit, Wagner c'est un bourgeois qui essaye de conjurer l'angoisse bourgeoise de la fin du capitalisme en la mettant en scène dans le Ring, en fait. Et il identifie, alors ça c'est intéressant par contre, les dieux aux bourgeois. Alors Wagner serait détestable, parce qu'on peut employer le terme, parce que Adorno est véritablement virulent à l'égard de sa musique, à cause toujours du leitmotiv, j'y reviens, parce que le leitmotiv mènerait logiquement à cette abomination qui est pour Wagner, qui est pour Adorno, la musique de cinéma. Et là, Adorno, il a identifié quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'à la fois on peut rejeter son élitisme culturel, qui dénonce le cinéma comme une industrie culturelle abrutissante, mais on peut accepter le lien qu'il fait entre la musique de Wagner et la musique de cinéma. Et en fait, on peut constater que la musique wagnérienne, elle est effectivement adaptée aux exigences de la mise en musique des films, qu'elle permet de très bien souligner des ambiances ou d'accentuer l'intensité dramatique dans les films. Et ça, c'est quelque chose d'assez remarquable dès les premiers temps du cinéma. Par exemple, Un chien andalou de Buñuel et Dali intègre la musique de Tristan et Isolde. Alors, c'est un film qui date de 1929. J'ai pas pu retrouver c'était dès l'origine quand le cinéma était... C'est un film muet, Le chien andalou. Alors, je sais pas si c'était supposé avoir un accompagnement au piano ou si malgré tout il y avait une bande-son, c'est à partir de 27, je crois, la mise en son des films. Mais bon, dès ce film-là, on a l'utilisation de Wagner pour comme musique de film. Alors, plus proche de la lecture d'Adorno qui associait Wagner au fascisme, mais aussi un film extrêmement célèbre qui relèverait sans doute de l'industrie culturelle à ses yeux, et c'est, je voulais en passer un extrait, c'est Le Dictateur de Chaplin, donc, qui date de 1940, qui utilise le prélude de Lohengrin. Cette scène fameuse où le dictateur, qui ressemble à Charlot mais aussi à Hitler, joue avec une map-monde qui finit par éclater. Alors, c'est ça que je voulais passer, mais... Autre cas célèbre, mais qui relève presque de la paraphrase, c'est La Chevauchée des Valkyries dans Apocalypse Now de Coppola, où ça accompagne le ballet guerrier des hélicoptères. Ludwig ou Le Crépuscule des Dieux de Visconti, mais Wagner, là, est un personnage du film. Excalibur de John Borman, Nosferatu de Werner Herzog. Plus récemment, on a eu Mélancolia et La Folie Allmayer de Chantal Akerman, qui tous les deux ont utilisé le prélude de Tristan. Vraiment un recours très fréquent des cinéastes à la musique de Wagner pour accompagner leurs films. Et par ailleurs, la technique des leitmotivs a été adoptée très largement par les musiciens de cinéma. Donc il y a une vraie affinité entre la musique de Wagner et le cinéma, même si Wagner est mort une douzaine d'années avant son invention. Et ça tient peut-être avec l'idée wagnérienne du drame musical que j'avais évoqué la semaine dernière, où il y a le projet de quelque chose que le cinéma va rendre possible, d'une conjonction entre la musique et le théâtre, où les deux se trouvent combinés dans des rapports qui ne sont pas nécessairement de hiérarchisation ou de domination. Même si tous les films ne comportent pas de musique, Dans certaines scènes, la musique joue un rôle plus expressif que des dialogues, par exemple, ou vient redoubler et renforcer ce qui se joue dans les images projetées sur l'écran. Adorno souligne cela, mais parce qu'il méprise le cinéma, c'est sur le mode de la stigmatisation, comme un point faible de la musique de Wagner. Un autre témoignage de l'inspiration bourgeoise que Adorno lit dans la valorisation du leitmotiv, c'est l'atomisation du matériau. La multiplication des leitmotivs atomise la matière musicale, de la même manière que Siegfried atomise Notung, l'épée de son père Siegfried, Siegmund, qui a été brisée par Wotan. Alors là, c'est un point, c'est une métaphore qu'utilise Adorno. Dans l'opéra, Siegfried se retrouve avec une épée cassée, qui est celle de son père, et il s'agit de la réparer pour pouvoir tuer le dragon Fafner et récupérer l'anneau. Et en fait, ce que fait Siegfried, c'est qu'il n'essaye pas de fixer les deux morceaux, c'est qu'il il atomise l'acier de l'épée et il la reforge une nouvelle fois. C'est-à-dire qu'il redonne en fusion le métal pour la forger à nouveau. Alors ça c'est une métaphore qu'utilise Adorno, mais il fait aussi le rapprochement avec la peinture impressionniste qui atomise le motif pour rechercher un effet par la multiplication des touches. Et autre métaphore de l'atomisation, c'est l'industrie capitaliste où le travail est atomisé en tâches parcellaires sur le modèle du travail à la chaîne, connu sous le nom du taylorisme. Alors, ce qui est assez, là aussi, c'est très audacieux et c'est un anachronisme. C'est-à-dire que au moment où Wagner compose ses opéras, certes le capitalisme est en voie de triomphe, mais on n'a pas encore inventé le taylorisme et le mode d'organisation du travail n'est pas celui du travail à la chaîne dans les fabriques. Mais voilà, c'est vu que on est dans un registre de discours philosophico-sociologique, mais qui ne s'embarrasse pas de cohérence historique chez Adorno. Et puis également, un indice de cette atomisation qu'il reproche à la musique de Wagner, c'est que on peut détacher des morceaux des opéras. Et effectivement, dans la musique de concert, il est fréquent de jouer des morceaux de bravoure des opéras de Wagner, mais sans avoir la totalité de l'opéra. C'est-à-dire, on a des morceaux qui sont célèbres, comme les adieux de Wotan à Brunehilde, comme la mort d'Isolde, comme l'enchantement du Vendredi Saint, qui est un morceau de Parsifal, etc. Et ça, c'est un symptôme, selon Adorno, de la friabilité de l'ensemble. Et puis il reste une dernière dimension bourgeoise que repère Adorno dans l'opéra wagnérien, qui est celle du vaudeville, donc qui est un genre typiquement bourgeois et qui prospère dans la seconde moitié du XIXe siècle. Là aussi c'est quelque chose que Nietzsche avait remarqué. Dans les histoires que nous racontent ces opéras, il y a toujours une focalisation, que j'ai déjà évoquée, sur le mauvais sexe qui opère hors de la religion et des liens sacrés du mariage. C'est le cas dans Tannhäuser, où Elisabeth essaye d'arracher Tannhäuser aux séductions du Vénusberg, qu'on pourrait assimiler à un bordel. C'est encore le cas dans Tristan et Isolde, qui met directement, explicitement en scène une histoire d'adultère avec le neveu qui séduit la femme de son oncle. Et puis on retrouve cette conception bourgeoise du mariage comme unité de production et de prospérité économique. Alors dans une scène du Crépuscule des Dieux qui est assez rigolote, où dans cette scène il y a Siegfried qui se promène, qui a l'anneau, qu'il a donc récupéré en tuant Fafner, qu'il a ensuite donné à Brunehilde, qu'il a repris à Brunehilde. Donc il se promène au bord du Rhin et donc il y a les filles du Rhin qui l'accostent, on pourrait dire qui le racolent, en lui demandant de rendre l'anneau, ce qui résoudrait tous les problèmes qui sont au cœur de la tétralogie. Et Siegfried il refuse de rendre l'anneau et il fait une réponse qui est absolument fabuleuse, que je cite: « Si je dépensais mon bien pour vous, ma femme m'en voudrait bien. » Alors, qui est la réponse typiquement bourgeoise de celui qui renonce à aller au bordel parce que ça coûte trop cher, pas parce que c'est immoral. Hein. Et les filles du Rhin sont vraiment très aguicheuses et peuvent être assimilées, rapprochées des figures de prostituées. Autre trait qui évoque le vaudeville ou le ménage bourgeois confortable et conformiste, c'est ce qu'on appelle précisément la scène de ménage, qui est le début du deuxième acte de la Valkyrie, où Frica qui adresse de longs reproches à son mari Wotan, parce qu'elle-même c'est la gardienne des liens du mariage, donc elle va exiger, et ça va poser plein de problèmes, la punition de l'adultère et de l'inceste de Sigmund et Sieglinde, mais en revanche, Wotan c'est un mari volage qui est supposé avoir gravé les droits des contrats sur sa lance, mais qui ne les respecte pas. Donc, Wagner, pour résumer, Wagner comme artiste bourgeois, faussement innovateur et moralement et politiquement conservateur. Donc, une lecture extrêmement sévère de l'œuvre de Wagner, hein, qui nous est proposée par Adorno, alors qui est extrêmement sévère, qui est souvent injuste ou décalée, pas convaincante historiquement en tout cas, pas toujours convaincante historiquement, mais qui a eu ce mérite d'inspirer des metteurs en scène, et spécialement Patrice Chéreau, qui avait proposé en 1976 une mise en scène du Ring à Bayreuth, qui avait fait scandale, donc avec Pierre Boulez à la direction de l'orchestre. Alors ça avait fait scandale parce que c'était le centenaire de Bayreuth, hein, qui avait été fondé donc en 1876, et les Allemands n'avaient pas apprécié qu'on convoque deux Français pour le Ring du centenaire. Et puis c'est une mise en scène qui se réfère à Adorno pour situer, alors plus ou moins clairement, parce que c'est difficile aussi à tenir, mais qui situe l'intrigue dans une sorte de début du XIXe siècle un peu fantasmé, mais à l'époque du capitalisme naissant, et c'est bien l'accumulation de la richesse, du capital, qui s'exprime dans la lutte pour l'anneau forgé à partir de l'or du Rhin. D'où des costumes qui évoquent davantage le début du XIXe siècle, des costumes de bourgeois, plutôt que des costumes de dieux scandinaves avec des peaux de bête et des casques à cornes, ce qui était plutôt la tradition pour la tétralogie, et des décors qui, eux aussi, ont fait référence à cette poussée victorieuse de la bourgeoisie capitaliste, avec, par exemple, au début de l'or du Rhin, ben, un barrage sur le Rhin, avec les moyens de production qui, en tout cas d'énergie qui sont là, une mine qui évoque plutôt Germinal pour le Nibelheim, le monde des nains, où Wotan et le dieu du feu, Log, vont récupérer l'or du Rhin, le Valhalla qui est décoré avec de gigantesques mécaniques, hein, l'or des dieux, il vient aussi de la production qui sert aussi, c'est du capital, et puis un marteau pilon pour forger l'épée de Siegfried, alors marteau pilon dans la forêt, mais malgré tout qui permet à Siegfried de forger son épée. Alors une nouvelle fois, on est victime de la technique, et Adorno avait bien raison de s'en méfier, parce que j'avais des extraits de cette mise en scène à vous passer, et c'est bien dommage. Et en plus, ça nous a retardé, comme je suis trop long, il est bien tard et il est temps que je m'arrête. Et, je vais passer à vos questions. Merci.